Alors, déjà, évaluation et aide personnalisée à l'école maternelle à propos du langage, c'est assez abondant, c'est assez lourd. Je ne pense pas que je ferai le tour des questions et des problèmes aujourd'hui, mais on va essayer quand même de s'affronter à ce gros bloc. Je vais le faire, je vous le dis d'emblée, en prenant le parti qui me semble le seul viable aujourd'hui sur une question comme celle-là, qui est le parti d'une certaine façon de la plus grande simplicité. Je crois que on complique souvent les choses et que on se donne l'impression d'être plus savant, plus intelligent, plus tout ce qu'on veut en faisant des choses compliquées. Et à vouloir faire des choses trop lourdes, on se donne des missions impossibles. L'axe de ma réflexion à moi est toujours le même, c'est-à-dire comment rendre possible finalement le métier de telle façon qu'il profite plus aux enfants qui en ont le plus besoin. Donc, vous en ressortirez peut-être en trouvant que le raisonnement ou la présentation n'est pas très sophistiquée, mais c'est volontaire. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Alors, pour ceux qui aiment prendre des notes, je précise que mon diaporama est à la disposition de tout le monde une fois que l'exposé est terminé. Donc, vous prenez les notes que vous voulez. Il y a des numéros sur les pages si vous voulez prendre des compléments à ce qui est écrit. Ça vous permet de le raccrocher ensuite. Un plan très rapide sur l'évaluation rapidement, pourquoi et comment évaluer. Un ton évidemment plus important sur que faut-il évaluer et comment en matière de langage. Et j'insisterai beaucoup, surtout sur ce qu'il faut, ce à quoi il faut être sensible. La question des outils semble secondaire une fois qu'on a compris à quoi il faut être sensible. Et dans une troisième partie, comment concevoir l'aide personnalisée, et je donnerai des exemples concrets à propos du langage. Alors, la juste place de l'évaluation. Pourquoi juste place? Parce qu'il faut évaluer, à mon avis, mais il faut savoir pourquoi, il faut savoir ce qu'on fait, il faut savoir ne pas en faire trop. Il faut évaluer pour rendre compte. N'ayons pas peur de le dire, nous sommes tous partie prenante de la société d'aujourd'hui où il y a, si je puis dire, cette exigence de communication, voire de transparence. Et si nous ne communiquons pas sur, finalement, ce que fait, ce que produit l'école maternelle, nous sommes suspects aux yeux de bien de nos observateurs. Et ils se disent, au fond, on n'en sait pas trop sur l'école maternelle, si on n'en sait pas trop, c'est qu'ils ont des choses à cacher. Donc, moi je dis, il ne faut pas se soustraire à cette obligation de rendre compte. Au fond, nous n'avons pas de raison d'avoir honte. Rendre compte à l'institution et à la société, pour montrer que les exigences institutionnelles, les programmes, ce que l'on dit qu'on doit faire, c'est bien pris en compte, pour montrer tout simplement que la scolarisation maternelle sert à quelque chose. Je suis, moi, très furieuse quand j'entends dire ce que l'on entend à certains moments sur ces enfants qui sortent de la maternelle, ils ont passé 3 ans, vous rendez compte, ça se passe ci, ça se passe ça. Moi, j'essaie de dire en permanence que l'école maternelle n'a jamais été aussi efficace. C'est-à-dire que si l'on regarde dans quel état de connaissance, de savoir, de compétence sont les élèves qui en sortent, en moyenne, ils n'ont jamais été aussi avancés qu'ils le sont aujourd'hui. Mais du coup, ça rend encore plus, intolérable d'une certaine façon la situation des enfants qui se trouvent décalés par rapport à ceux, au fond, qui savent lire avant d'arriver au cours préparatoire. Et ils n'ont jamais été aussi nombreux, ça mérite qu'on le dise. Et je pense que C'est parce qu'on n'a pas su mettre en évidence ce succès de l'école maternelle que parfois on lui fait de mauvais procès. Deuxième point, rendre compte aux parents d'élèves, le premier concerné, d'abord pour leur montrer que l'école maternelle fait bien ce qu'il faut pour apporter à leur enfant ce qu'il est dû, pour leur donner surtout des informations utiles sur les acquis, les progrès, voire l'absence de progrès ou les difficultés de leurs enfants. On sait qu'au jour d'aujourd'hui, pour un certain nombre de familles, c'est l'accès à l'école maternelle de leur enfant qui va être le moment de la prise de conscience de certaines petites différences. Hein. Je parle de certains handicaps, je parle de certains troubles, de certaines grosses difficultés face auxquelles ils peuvent se voiler la face, même s'ils ont eu des petits éléments d'alerte. Et c'est l'école maternelle, avec ses attentes, avec ce qu'elle rend possible de comparaison avec les autres enfants, qui est le moment, finalement, où ils vont entendre des choses précises, des choses tangibles, qui peuvent leur faire comprendre qu'effectivement, il va y avoir des solutions particulières à trouver pour ces enfants. Ces enfants sont certes peu nombreux, mais il faut pouvoir être précis. Rendre compte enfin aux élèves eux-mêmes. J'aurais pu les classer en premier, ça n'est pas une histoire de hiérarchie. On est allé du plus large au plus près, si je puis dire, du métier. C'est important d'aider les enfants, même tout petits, à identifier ce qu'ils savent faire, les progrès qu'ils ont faits. Je crois que c'est la bonne manière de regarder les enfants, de se mettre dans le souci d'évaluation. Ça n'est pas de chercher à les comparer à des normes. On sait qu'à l'âge qu'ils ont à la maternelle, les choses sont très fluctuantes. À 6 mois d'écart, c'est colossal dans la maturation. Mais toujours chercher à mettre en évidence s'ils sont en progrès. Un enfant qui ne progresse pas est un enfant qui doit commencer, pour lequel on doit commencer à s'inquiéter. Un enfant qui progresse, même s'il reste en décalage par rapport à la moyenne de ses camarades, c'est un enfant à qui on apporte quelque chose. C'est le progrès, ce n'est pas le résultat brut qui est en soi déterminant. Et c'est quelque chose à mettre en évidence pour les enfants eux-mêmes. Avant, tu ne savais pas faire ceci, tu ne disais pas les choses comme cela, maintenant tu sais le faire. Je voudrais, pour terminer sur ce premier élément, souligner à quel point l'évaluation ne doit pas être vue simplement comme quelque chose qui nous... qui serait inquiétant pour nous. Certes, rendre compte, c'est rendre des comptes. On n'aime pas toujours rendre des comptes. Pourtant, on y est obligé toute sa vie. Mais dans l'évaluation, et c'est ce qui est au cœur du mot évaluation, c'est mettre en valeur des choses. Évaluer, c'est mettre en valeur des choses. Et la question que je poserai dans la deuxième partie, c'est qu'y a-t-il à mettre en valeur, au fond, à chercher en matière de langage à l'école maternelle. Deuxième aspect, rendre compte d'un côté. Deuxième aspect, évaluer quand on est enseignant pour se rendre compte. Ce n'est pas exactement la même chose. Alors, tout ce que l'on sait de l'analyse des pratiques enseignantes, des points de vue des enseignants, amène à dire qu'en général, les enseignants, alors on ne va pas dire l'enseignant débutant qui conduit une classe de moyenne section ou de petite section pour la première année, mais l'enseignant qui a un peu d'expérience a de bonnes intuitions sur ses élèves. C'est-à-dire que les enquêtes qu'ont pu faire de nombreux psychologues, je pense à Agnès Laurin, je pense à Claire Meljac, qui ont travaillé là-dessus à un moment donné, conduisent tout à dire, au fond, le jugement de l'enseignant est globalement un jugement auquel on peut se fier. Cependant, pour avoir des détails, des choses un peu plus fines qu'un jugement global, on a souvent plus de difficultés. Et je crois que la perspective dans laquelle il faut professionnellement conduire les évaluations, c'est de se dire au fond, de quoi j'ai besoin comme information? Est-ce que je peux l'avoir facilement? Est-ce qu'il faut que je mette en place des modes d'évaluation particuliers? C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'avoir des outils sophistiqués pour tout évaluer. Mais il faut arriver à situer quels sont les points essentiels sur lesquels il faut se faire un avis précis. Et c'est ces points-là sur lesquels je développerai tout à l'heure. Ajuster ses pratiques, il faut savoir pour mieux cibler ses objectifs. Il faut savoir identifier les décalages ou les faiblesses pour apporter des aides appropriées. L'évaluation, ça aide à savoir plus finement. Comment évaluer maintenant? Alors, moi, le mot d'ordre, c'est rester simple. Hein? C'est pas parce qu'il y en a des tas comme ça qu'on est plus avancé à la fin. Alors, Deux sortes d'outils. Et je sais que quand on parle des outils d'évaluation, on pense plutôt au premier, à la première catégorie. C'est juste, mais je voudrais insister sur la seconde aussi. Il faut des outils, d'une certaine façon, pour prendre la mesure des acquis, pour savoir où ils en sont. Alors on peut appeler ça des épreuves, on peut appeler ça des situations, on peut appeler ça des exercices. Il y en a qui sont d'une certaine façon validés, parfois étalonnés, c'est-à-dire qu'ils ont été construits selon des procédures rigoureuses et ils permettent de se rendre compte finalement avec des paramètres précis. C'est souvent les outils qu'utilisent les enseignants spécialisés, les psychologues. Le ministère avait fait des choses à une période pas si éloignée que ça. On en trouve des traces dans le site du ministère qui s'appelle Banque Outils. Hein, ça s'écrit comme ça, B-A-N-Q-O-U-T-I-L-S. On va trouver des traces, alors Madame Lévesque me disait tout à l'heure que ça n'est pas encore mis en ligne, mais je sais que c'est fini, sur Eduscol, hein, un des sites du ministère, où des choses vont être mises en place très prochainement, si elles ne le sont pas encore, qui nous rassureront à cet égard, parce que là, nous avons cherché vraiment à faire simple. Il y a ces choses qui sont fabriquées au niveau national, si je puis dire. Il y en a d'autres qui peuvent être fabriquées localement. Moi, j'ai mis ici « mutualiser » en gros. Pourquoi ? Parce que je pense que quand on parcourt, comme moi, beaucoup de départements, quand on prend le temps de regarder un certain nombre de sites, hein, mettez quelques mots-clés sur Google, ça va vous mettre en évidence qu'il y en a partout, 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 des outils pour évaluer, on se rend compte que tout le monde cherche un petit peu la même chose, que certains ont produit des éléments qui peuvent être fort intéressants, ce serait dommage de ne pas en profiter. Il ne faut pas réinventer. Hein? Alors, c'est vrai que le faire soi-même, on a l'impression qu'on l'a plus à sa main quand on l'a fabriqué soi-même. Hein? C'est un peu comme les gâteaux faits maison, ça a un côté... Cet artisanat... ça peut plaire mieux. Je pense que c'est important, mais je pense que c'est important de s'inspirer de ce que d'autres ont fait. Pour fabriquer, il y a des outils qui peuvent nous aider. Avec le programme 2008, et en particulier en matière de langage, il y a toute l'annexe de la fin qui s'appelle « Repères pour organiser la progressivité des apprentissages » qui balise le parcours. Et là, on trouve au fond des éléments qui permettent de préciser des indicateurs pour la petite section, pour la moyenne section, pour la grande section. Je me suis un peu appuyée là-dessus pour ce que je vous proposerai tout à l'heure. Il y avait des documents antérieurs d'accompagnement des programmes de 2002 qui ne sont pas complètement caduques. Alors, bien sûr, il faut regarder ce qui a bougé dans le programme. Mais dans les documents antérieurs, il y a encore beaucoup de ressources. Il y avait le document qui s'appelle « Le langage à l'école maternelle ». Alors, qu'on est en train de remanier, non pas pour le refaire, mais pour le mettre bien en cohérence avec les nouveaux programmes. Hein. Augmenter certains éléments, retravailler le plan pour que vous y retrouviez mieux. Je signale aussi, même si ça n'est pas le cœur de mon propos aujourd'hui, il y avait un document antérieur sur les mathématiques Peut-être que vous ne l'aviez pas tous tiré parce qu'il n'a pas été diffusé sous forme de livret, mais il était sur Eduscol, qui était très précis sur justement ces questions de progressivité. Petit, moyen, grand, sur tous les items du programme de mathématiques. Je pense qu'à cet égard, ce sont des outils, des bases de travail qui restent importantes. Alors, encore une fois, ça peut se présenter sous la forme d'exercices. Je dirais tout à l'heure que, de mon point de vue, les exercices, on n'en a pas beaucoup besoin en école maternelle. Ça peut se présenter sous la forme de situations. Ce qu'on appelle souvent les situations, c'est les scénarios d'activité, finalement, dans lesquels il faut mettre les enfants pour qu'ils produisent du langage, par exemple, et que l'on va écouter et examiner. Ça peut être des grilles d'observation. Et il me semble que la question de l'observation mérite aujourd'hui d'être retravaillée. Ça, c'est une première famille d'outils. La deuxième famille d'outils, qui pour moi manque d'une certaine façon, ce sont les outils pour garder trace des évaluations. Alors, j'ai l'impression, à examiner les pratiques des enseignants, comme ça en me promenant, si j'ose utiliser ce terme-là, que l'obligation qui a été faite d'avoir des livrets scolaires pour chaque élève a d'une certaine manière abouti souvent à des choses assez lourdes, parfois trop lourdes par rapport à ce qu'on y trouve politique, et en même temps très éclatées. C'est-à-dire qu'on a parfois des outils individuels qu'on nous appelle livrets, fiches, périodiques, enfin, comme on veut, et puis les fiches, elles s'accumulent pour faire des livrets. Moi, je n'ai vraiment aucune religion sur la forme que ça doit prendre. On a cela, mais on a rarement ce que j'ai appelé sur ce document un tableau de bord pour la classe. C'est-à-dire un outil qui permette rapidement de récapituler, finalement, la situation de l'ensemble des élèves. Alors, moi, j'ai vu ça dans quelques classes, d'ailleurs, peut-être certains d'entre vous en ont. Moi, je pense à des choses très simples. J'ai un tableau à double entrée avec la liste des élèves. Et puis, d'une certaine façon, les grandes compétences sur lesquelles il faut vraiment prendre de l'information en permanence sur les progrès des élèves. Et quelques éléments indiqués sur la situation des élèves de façon évolutive. Alors ça peut être très figuré, hein, il y a des maîtres qui ont des choses avec des couleurs, un code qui leur est propre, il y en a d'autres qui préfèrent écrire, mais cette idée qu'à tout moment, on doit pouvoir se rendre compte finalement de la variété des situations dans la classe. Et je pense que pour un enseignant et pour une équipe pédagogique, avoir cette approche longitudinale, cette approche récapitulative, est quelque chose qui ajoute de l'information et surtout qui ajoute du sens. Encore une fois, pas compliqué, hein. Le tableau à double entrée, chacun s'approprie comme il veut, on met les compétences de telle façon que ce soit assez facile de remplir des cases. Il y a des enfants pour qui tout va très bien depuis le début, si je puis dire. Ça n'est pas la peine d'en écrire des tartines. Si ça va bien, ça va bien, on le note. Ce sont les enfants, les enfants sur lesquels il faut s'interroger, ce sont les enfants pour lesquels on est sûr, hein, dans son approche globale, qu'il va falloir faire attention dès le début et qu'il va sans doute falloir déployer peut-être des stratégies particulières. Et les autres enfants auxquels il faut faire attention, c'est ceux sur lesquels spontanément on n'a quasiment rien à dire. Ce que j'appelle parfois, moi, les enfants transparents. C'est-à-dire, ils ne font pas de bruit, pas de pagaille, ils ne sont pas instables, mais au fond, on ne les voit pas vraiment. Et en particulier en matière de langage, ces enfants très discrets, il faut s'y intéresser. Certains n'ont vraiment aucune difficulté en matière de langage. Mais vraiment aucune. D'autres, par contre, on en voit pas. Deuxième point, comment évaluer ? Quel dispositif ? Alors, pour le langage. Les épreuves papier-crayon sont assez peu pertinentes. Vous devez vous en rendre compte assez aisément. Sauf parfois pour évaluer la compréhension. On peut évaluer la compréhension de textes lus à partir d'images, de dessins, etc. Les épreuves papier-crayon peuvent devenir utiles en grande section pour ce qui est découpage en syllabes, repérage de sons. Je crois qu'on n'a pas à mesurer l'implication de l'enseignant et le travail des élèves au nombre de fiches qui ont été remplies. Et que de ce point de vue-là, il vaut mieux des vraies situations où il y a du langage qui se déploie et de l'oral, plutôt que ces pseudo-fiches qui nous leurrent dans la majorité des cas. Pour le langage, je crois qu'il faut apprendre à privilégier l'observation. Alors quand je dis observation, c'est écoute en même temps. L'observation dans les situations naturelles de classe. On prend de l'information dans ces situations-là. Et quand ça ne suffit pas, dans une tâche particulière, conçue pour l'évaluation, et qu'on propose à un petit groupe d'élèves, mais ça peut être comme un atelier finalement, qu'on fait vivre et qu'on utilise pour prendre de l'information pour évaluer. Point suivant qui me semble important, on ne fait pas à l'école maternelle, sauf rare cas, si je puis dire, la campagne d'évaluation. Pas la semaine de l'évaluation, à la fin de la période, là, pour tous, allez hop, ils vont devoir y passer les uns derrière les autres, on les interroge. Donc, il faut pouvoir se donner de la souplesse. Les dates auxquelles on va prendre de l'information peuvent varier selon les élèves. Il y a des élèves pour lesquels on a besoin assez régulièrement de se mettre en situation de focaliser son observation sur eux ou de créer des situations. Il y en a d'autres pour lesquelles on peut faire ça de manière plus éloignée. Et puis, l'objet même de l'évaluation peut être tout à fait différent selon les enfants. C'est ce que j'ai résumé par la formule qui est en bleu, pour plagier les mots à la mode aujourd'hui. De mon point de vue, on ne fait de l'évaluation durable à l'école maternelle qu'en situation écologique, c'est-à-dire qu'en situation naturelle. Si l'évaluation devient quelque chose d'artificiel dans la classe, alors à mon avis, on peut créer de la fausse information. On sait bien qu'il y a des choses qui sont fluctuantes dans la mise en œuvre des compétences par les élèves. On peut créer une situation d'évaluation au jour J et ne pas obtenir ce qu'on imaginait. Le lendemain, on pourrait l'obtenir dans une autre situation. Alors, il faudrait travailler de façon plus fine sur la distinction entre évaluation et validation de compétences. Évaluer si les élèves maîtrisent certaines compétences, ça ne peut pas se faire par une prise d'information. Il faut plusieurs prises d'informations pour dire au bout du compte, oui, là, il n'y a pas de souci. Je prendrai des exemples concrets dans quelques minutes.